Vous êtes toujours à l'écoute de RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net, hein, ne pas oublier le wawawa devant, donc wawawa.rfpp.net, pour nous écouter à Istanbul, à New York ou à Los Angeles en direct. Et cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site RESF. Hein. Je rappelle quand même l'adresse http://resf.info/radio. C'est très simple. Donc, on est toujours avec Ami Wong, hein, qui va nous parler de son rapport. Donc, c'est une recherche que tu as faite en 2011.
Oui, c'est ça.
Et publiée en 2014.
Oui, exactement. Donc, juste pour expliquer un peu, en 2010-2011, j'ai fait mon master en droit de l'homme à Londres, à la London School of Economics. Et donc, ça, ce rapport, c'était, comme tu as dit, mon mémoire. Et le sujet de ma recherche était les stratégies de plaidoyer qui sont utilisées par les collectifs, par les associations en France pour défendre les droits des sans-papiers. Donc, c'est un peu compliqué le sujet, mais après, je peux expliquer ça un peu plus, bien sûr.
Oui, j'attends ta explication. Et ce qui est intéressant, c'est que tu reprends dans ton rapport le terme. Donc, ton rapport est en anglais, mais tu reprends le terme sans-papiers en expliquant pourquoi. Et tu ne parles pas d'undocumented people ou d'illegal people, mais tu reprends en français le terme sans-papiers.
Ça, c'est vrai. Mais je crois que j'ai jamais trop pensé à ça, en fait. Mais je crois que j'ai fait ça simplement parce que j'ai fait tous les entretiens, toute la recherche était sur la France, en France. Et non, tous les documents que j'ai étudiés, c'était sur les sans-papiers en France. Et c'est pour ça que j'ai repris ce terme. Mais je crois que c'est sûr que... je crois que c'est clair que les stratégies qu'on utilise ici en France pour défendre les droits des sans-papiers sont assez universelles comme stratégie. C'est, à mon avis, on peut voir ça un peu partout dans le monde.
Voilà, donc je te laisse maintenant nous présenter ton rapport.
D'accord, ok. Je crois que ça va être une discussion... assez théorique parce que en fait le rapport était assez théorique et donc je vais essayer de présenter les trois chapitres principaux du rapport et je vais essayer de faire ça en peut-être 5-10 minutes et après je crois que ça sera plus intéressant quand on parle concrètement de questions que tu pourrais avoir. Oui, non, je crois que cette conversation d'après sera assez intéressante. Alors, non, je vais expliquer un peu comment je suis arrivée à ce sujet de recherche. Donc, quand j'étais à Londres, en 2009, j'avais passé, c'était la première fois que je suis venue en France. Et à cette époque-là, je suis venue juste pour passer 2 mois et demi ici. Et quelqu'un m'a mise en contact avec une association qui aidait les jeunes sans-papiers afghans qui vivaient, qui dormaient dans le jardin Villemain, donc pas loin de chez moi. Donc un jour, j'ai accompagné une des femmes qui travaillait pour cette association pour aller dans le jardin Villemain pour rendre visite aux jeunes. Et c'est une expérience qui a duré peut-être 10 minutes, 20 minutes. J'ai vu vite fait les jeunes, mais je voyais leur désespération. Je voyais que c'était très dur pour eux. Beaucoup d'entre eux avaient des statuts juridiques qui n'étaient pas clairs. Et c'était vraiment une chose qui m'a rendue assez triste. Et je savais tout de suite que c'était un thème que je voulais connaître un peu plus profondément. Et donc, quand j'étais à la LSI, je savais que je voulais travailler sur la thème des sans-papiers. En même temps, je ne savais pas quelle perspective je voulais prendre. Et un jour, j'étais en ligne et je suis tombée sur le court-métrage que vous avez fait, « Laissez-les grandir ici ». Je l'ai regardé, ça dure 3 minutes et demie, je crois que c'est un court-métrage qui est vraiment très court, mais ça m'a beaucoup marqué, j'ai fini en larmes, mais en même temps, ce qui m'a vraiment intéressée dans ce film, c'est que le discours que tous les enfants dans le court-métrage utilisent pour décrire leur expérience est un discours uniforme, dans le sens qu'ils disent tous « nous sommes comme ça, nous sommes les enfants des sans-papiers, nos vies sont comme ça ». Donc c'était... Non, la stratégie de plaidoyer, disons, utilisée dans ce film, c'était un discours de souffrance pour décrire les vies des sans-papiers et pour décrire la vie de leurs enfants. Et pour moi, c'est un discours très très valide, mais pour moi, c'était aussi c'était une forme de parler au public et pour convaincre le public à soutenir la cause de RSF. Et non, à partir de ce moment-là, j'en ai parlé avec des gens à la LSI. Ce que je voulais étudier était justement les stratégies différentes qu'on utilise pour défendre les sans-papiers. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi quelques collectifs, quelques organisations ici en France. Non, au final, j'ai étudié 5 organisations. Il y avait RSF, la CIMAD, les Amoureux au bon public, le GISTI, et après il y avait une association qui s'appelle Cette France-là. Je ne sais pas si tu connais. Cette France-là,
oui.
Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des entretiens avec des gens de chaque collectif, de chaque association. Et après, j'ai aussi récolté des rapports, des courts-métrages, ce qu'en anglais on appellerait des advocacy tools, comme des rapports, des affiches, des pétitions de ces organisations. Et je les ai étudiées. Et non, là... Non, ça, c'était la base de ma recherche et de mon projet. Et maintenant, je vais présenter un peu mes conclusions. Non, la conclusion principale de mon rapport, c'est qu'il y a 5 stratégies principales qu'on utilise pour parler des sans-papiers, pour représenter les sans-papiers. Donc, ce que j'ai fait, c'était assez théorique, mais dans mon mémoire, j'ai décrit ce que j'appelle 5 subjects, 5 sujets. Et donc, c'est des sujets, c'est un peu comme des catégories dans lesquelles on pourrait mettre les façons de parler des sans-papiers. Donc, le premier sujet était le sujet cosmopolite. Donc là, je vais nommer les 5 sujets. Après, je vais décrire chaque sujet avec un peu plus de détails. Le premier sujet, le sujet cosmopolite. Le deuxième sujet, le sujet juridique. Le troisième sujet, c'est le sujet qui souffre. Le quatrième sujet, c'est le sujet qui est intégré culturellement en France. Et le cinquième sujet, c'est le sujet utilitaire. Donc là, je vais parler un peu plus de chaque de ces sujets. Alors, dans beaucoup des documents que j'ai étudiés, le sujet cosmopolite apparaît. C'est quoi le sujet cosmopolite? C'est quand on parle des sans-papiers et on défend leurs droits de l'homme, leurs droits en disant qu'ils sont des êtres humains comme nous, et pour cela, ils ont exactement le même droit et ils ont le droit de rester en France. Donc ça, c'est pour simplifier un peu. Le deuxième sujet... C'est le sujet juridique. Donc là, si on pense par exemple à l'approche de GISTI de défendre les sans-papiers et les migrants en général, c'est une approche qui est très très juridique. Et par exemple, quand j'ai parlé avec des gens qui travaillaient chez GISTI, ils disaient qu'ils ne mettaient jamais d'image des gens dans leur rapport parce que pour eux, c'était... Leur but n'était pas de faire pleurer aux gens, c'était d'utiliser la loi et que la loi est pour défendre les droits des gens. Et ils ont dit aussi que, tu vois, si on fait pleurer, si on fait pleurer quelques gens, si on présente l'image d'un sans-papier ou d'un migrant qui souffre, ça va pas sauver, disons, beaucoup de migrants. Ça va peut-être sauver quelques-uns, mais c'est la loi qui peut vraiment apporter les changements qui sont nécessaires. Donc ça c'est une approche. Une autre approche, c'est, je dis approche, mais c'est plutôt une façon de parler des gens. Et je parle de ça indépendamment de ce que les gens vivent dans la réalité. Non, je veux juste préciser ça. Troisième sujet, c'est le sujet qui souffre. Donc, comme j'ai dit dans le court-métrage « Laissez-les grandir ici », on voit et les enfants nous parlent beaucoup de leur souffrance quotidienne. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui apparaît énormément dans, par exemple, des pétitions de RSF. Et après, on a le sujet qui est intégré culturellement. Et ce qui m'a fait penser à ce sujet était surtout les pétitions de RSF dans lesquelles on disait très souvent que cet élève-là parlait très bien le français, jouait au foot, avait de très bonnes notes à l'école. Et tu vois, moi je crois que c'est des raisons parfaitement légitimes qu'on peut donner, mais en même temps je crois qu'il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut montrer en disant ça? Parce que si c'est un élève qui ne parlait pas le français, cet élève n'aurait pas moins les droits de rester en France. Et je crois qu'on est d'accord sur ça. Donc je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Et après, le sujet utilitaire, c'est assez simple. C'est quand on parle des sans-papiers comme, par exemple, des personnes qui bénéficient de l'économie de la France. Et je crois que même avec quelqu'un de RSF, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, et là je cite, ça m'énerve quand les gens disent que les sans-papiers peuvent rester ici parce que ils sont bons pour l'économie, parce qu'on s'en fout en fait. Tu vois, le droit de rester en France existe indépendamment de ça, de ce fait. Et donc ça, c'est un peu les cinq sujets. Les cinq stratégies que je présente dans mes mémoires, pour moi, c'était vraiment les cinq stratégies de plaidoyer principales que j'ai perçues dans mes recherches. Et le deuxième chapitre de mon rapport parle de... dans le deuxième chapitre, je parle plus sur quelques théories différentes dans le domaine des droits de l'homme, dans deux théories qui sont pertinentes au sujet dont on parle en ce moment. C'est, donc, il y a une théorie qui dit que pour faire avancer les droits de l'homme au niveau global, la stratégie est assez simple. Il dit qu'il faut juste raconter des histoires très, très, très tristes et représenter tous les victimes qu'on veut défendre, comme s'ils étaient des êtres humains, comme si c'était personnes qui pouvaient être nos mères, nos frères, nos sœurs. Et ça, c'est vraiment la stratégie qu'il faut utiliser pour convaincre que les droits de l'homme sont importants. Et après, il y a une stratégie qui est on peut dire que c'est une stratégie un peu plus froide, dans le sens que selon cette stratégie, non, on ne fait pas ça, on utilise la loi. Donc on peut dire que c'est une stratégie un peu plus froide, parce que quand on veut humaniser les sans-papiers ou les victimes des violations des droits de l'homme, c'est une façon de donner un visage à ces gens. Et c'est une façon de, comment dire, faire vivre ces personnes dans les esprits des autres. Et donc ça, c'est deux stratégies qui sont très différentes. Et on voit ces deux... On voit la pratique, disons, de ces deux théories dans les stratégies de plaidoyer que j'analyse dans mon rapport. Et le troisième chapitre de mon rapport parle de quelque chose que je trouve très intéressant, et je crois que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de pays d'immigration. Et cette stratégie, c'est le fait d'utiliser l'idée de la nation comme quelque chose qui change, et quelque chose qui est flexible pour défendre les droits des gens. Et donc, pour donner un exemple très concret de ça, moi, je ne connaissais pas trop bien la musique de Georges Brassens il y a quelques années. Et donc, quand j'ai entendu parler quand quelqu'un m'a parlé de l'association Les Amoureux Bon Public, je savais pas du tout que je connaissais pas du tout la chanson Les Amours des Bons Publics de Georges Brassens. Et quand j'ai parlé de ça avec Nicolas Ferrand, qui est une des personnes qui a fondé cette association, il m'a dit que, tu vois, quoi, pour les Français, c'est une chanson très, très connue. Et ça évoque vraiment une image de la France. C'est quelque chose que cette chanson dans l'imagination française représente, quelque chose de très important. Donc on utilisa cette chanson comme un véhicule pour dire que la façon dont on traite les sans-papiers qui sont mariés avec des Français, c'est immonde, et c'est pas du tout quelque chose qu'on peut accepter. Donc voilà, ça c'est un peu mon rapport. Et donc au final, je crois que je finis avec beaucoup de questions, parce que les droits de l'homme, pour moi, ont toujours été quelque chose qui me tient au cours. Ça c'est sûr. Et moi, je vais toujours, depuis longtemps... Je veux m'impliquer dans la défense des droits de l'homme. Et là, après avoir fait ce rapport et ces recherches, la question que je me suis posée, c'était: mais comment faire? Comment faire si on veut être dans la pratique de la défense des droits de l'homme? Comment est-ce qu'on devrait parler des sujets, des personnes qu'on veut défendre? Et parce que parfois, les stratégies de plaidoyer qu'on utilise peuvent avoir, j'imagine, des conséquences qu'on ne veut pas.
Elles ont forcément des conséquences qu'on ne veut pas, parce qu'il y a on pourrait presque dire, surtout dans ces sujets-là, c'est que les rêves des uns, c'est le cauchemar des autres. Mmh. Et que donc si on quelque chose qu'on va voir en positif, les gens qui sont contre vont le voir la même chose en négatif. Moi, il y a une chose, quelques remarques quand même sur ce que tu viens de dire, parce que ton rapport, je l'ai parcouru, je ne l'ai pas vraiment lu. Alors qu'on se rassure, hein, il est en anglais, mais il est très facile à lire pour un Français qui a un niveau d'anglais comme le mien, c'est-à-dire pas très bon. il se lit très bien et il est vachement intéressant. Alors, il y a une chose sur ta démarche, c'est ce qui me fait penser à un proverbe qui dit: quand on veut connaître la hauteur d'un éléphant, il faut passer sous son ventre. Mmh. Ben, la France se prend pour l'éléphant des droits de l'homme. Et très bien, et avec ça, tu passes sous son ventre. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et quand tu parlais donc des différentes associations, hein, RESF, Simagisti, Amoureux au Bon Public et cette France-là, je veux dire, on est tous complètement interconnecté, hein, c'est...
Ouais, bien sûr.
Donc c'est... Et quand tu parles donc des différentes stratégies, cosmopolite, trois... Enfin, cosmopolite, c'est... ouais, donc le droit, parler de la souffrance, parler de l'intégration. En fait, est-ce que à RESF, moi j'ai l'impression qu'on fait, sans forcément s'en rendre compte, mais une espèce de synthèse de tout ça? Parce que c'est vrai, par exemple, quand on a des pétitions, qu'on insiste sur l'intégration d'un gamin,
ouais.
Ça c'est quelque chose qui est important, mais en même temps, c'est vrai que tu as donc le gamin qui a, je veux dire, qu'on n'a pas des papiers seulement pour les bons élèves.
Ouais, bien sûr.
Et on a été un petit peu amené, j'ai l'impression, par les préfectures dans ce sens-là, où les préfets, c'était au moment de Sarko, étaient plus favorables à régulariser les bons élèves et on demandait les carnets de notes. Donc, il fallait insister sur le fait que ce soit un bon élève.
Ouais, non, je comprends tout à fait la stratégie. Mais je crois que si j'étais vous, je ferais peut-être la même chose. Si ça pourrait aider la pétition, si ça pourrait aider la probabilité que ça soit réussi, je ferais aussi. Donc, je crois que ça, c'est un dilemme dans lequel on se trouve dans la pratique des droits de l'homme. Quelque part, il faut toujours rester un peu pragmatique. Mais est-ce que en étant pragmatique, ça met en qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça compromise? Est-ce que ça met en cause peut-être les valeurs qui doivent animer les droits de l'homme au niveau plus théorique?
Ben, je crois que ça dépend de là où on place le pragmatisme. Si le pragmatisme c'est arriver à régler une situation et une seule. Ou est-ce que le pragmatisme, c'est d'une part de régler chacune des situations et que pour régler chacune des situations, il n'y a qu'une solution, c'est de changer la loi. De changer la loi, donc de changer le regard sur l'étranger. Il y a un endroit où tu fais une citation, là je ne l'ai pas retrouvée, c'est une citation où tu dis que chaque nation produit ses étrangers. Et la particularité, c'est que chaque étranger l'a produit. Enfin,
Je crois que c'est une citation de. J'ai pas le rapport, mais je crois que c'est peut-être au début du deuxième chapitre. Une citation de Zygmunt Bauman, je crois, un sociologue polonais. Je vais juste.
Si on la retrouve pas, c'est pas très grave. Hein. Seul autant plus qu'il nous reste plus que quelques. Peut-être une minute ou deux minutes pour conclure avant de passer à l'agenda.
D'accord, ok. Donc, est-ce que tu as d'autres questions à poser parce que ce sujet m'intéresse énormément.
Non, mais on peut continuer sur ce sujet. J'ai plein de questions à poser. À la limite, il faudrait presque refaire une émission, que je relise bien le rapport et qu'on refasse une émission parce que je crois qu'il est aussi très important de faire un petit peu des retours, surtout maintenant, sur ce qu'on faisait il y a quelques années, sur ce qu'on continue à faire, et se poser un petit peu les questions d'ordre théorique. C'est vrai qu'on a le nez dans le guidon, qu'on bagarre, qu'on bagarre au jour le jour, parce qu'on a, on pensait que les choses se calmeraient un peu, on a de plus en plus d'élèves qui sont en galère, les sans-papiers en général sont de plus en plus en galère, on a de plus en plus de jeunes qui devraient être des élèves, mais qui n'arrivent pas à être scolarisés, pour un tas de raisons. Donc on en a parlé, par exemple pour les mineurs isolés étrangers, on n'arrive pas à les scolariser, mais on a aussi des pressions qui sont faites pour des gens qui sont en grande précarité, pour ne parler par les autorités, notamment municipales, pour le primaire, des refus de scolarisation, où on fait simplement pression en disant « mais on vous retire votre logement si vous ne scolarisez pas ». Donc on est en train de... On a à faire face à des problèmes de plus en plus. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse prendre aussi là-dedans du temps pour faire un recul un peu théorique. Voilà. Donc, mais sur la production de l'étranger, c'était vachement intéressant ce que tu disais, et la production de. Bon.
Oui, bien sûr. Je crois que ça, c'est un autre argument que je présente un peu dans le rapport, c'est parce que si pour défendre un groupe marginalisé, comme les sans-papiers, il faut toujours parler de leur marginalisation. Oh, pardon, je vais avoir du mal à dire ce mot. Marginalisation, c'est ça? Non, s'il faut toujours qu'on parle de ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Dans la réalité, c'est quelque chose de réel, mais en même temps, est-ce que ça crée une espèce d'identité qui est basée sur la souffrance pour ce groupe-là? Et non, je crois que ça, c'est ça. Alors, aussi une
question. Pour répondre à cette question, on reprendra hors antenne un rendez-vous pour continuer à en parler.
D'accord.
Soit au mois de décembre, soit au mois de janvier.
Oui, avec plaisir.
Parce que là, on me fait signe, donc les oreilles loin du front arrivent dans le studio et qu'il est temps de passer à toute vitesse à notre agenda.
Donc
on n'a même plus le temps de conclure et je passe tout de suite à l'agenda.
En tout cas, merci beaucoup
Merci
de m'avoir reçu.
Merci d'avoir fait ce rapport. Donc tout de suite, un autre agenda